Europe 1, en balade avec Hector Obalk, Frédéric Taddeï.
Bonjour, bon dimanche, c'est en compagnie d'Hector Obalk que nous partons en balade aujourd'hui. C'est le critique d'art le plus connu et le plus original de notre époque. C'est lui qui a amené la critique d'art à la télévision en filmant lui-même les œuvres. Aujourd'hui, il monte carrément sur scène, sur la scène d'un théâtre, avec son show consacré au Caravage. Hector Obalk nous a donné rendez-vous place Charles Dullin à Montmartre, devant le théâtre de l'Atelier.
Europe 1, 11h30, en balade avec Hector Obalk. Frédéric Taddeï.
Bonjour Hector Obalk. Nous voilà sur l'une des plus jolies places de Paris, sur la colline de la butte Montmartre, la place Charles Dullin, du nom d'un célèbre acteur. C'est lui qui a créé le théâtre de l'Atelier en 1922, au 19e siècle. C'était le théâtre Montmartre, la place s'appelait la place du théâtre. Nous sommes face au théâtre de l'Atelier, sur cette place pavée, plantée de trois rangées d'arbres. Vous l'aimez bien ?
C'est magnifique, hein. Il y a une petite esplanade, il y a une colonnade qui fait l'avancée du théâtre. C'est une place qui n'est pas un carrefour, ce qui est toujours rare à Paris. Il y a une autre qui est comme ça, qui s'appelle la place Fürstenberg. Et c'est un endroit les plus jolis que je crois à Paris.
Oui, on se croirait dans un décor de cinéma un peu. Hein.
Oui, il y a énormément de films. J'en ai vu un dernièrement avec Daniel Auteuil qui se passe au théâtre de l'Atelier. Enfin bref.
Alors vous êtes le critique d'art qui a amené la critique d'art à la télévision, le premier à avoir eu l'idée de filmer des œuvres. C'était sur Paris Première, puis sur Canal+, dans Nulle part ailleurs, ensuite sur Arte, dans la série Grand Art que vous avez fait pendant de nombreuses années. Vous avez fait aussi de la critique d'art en bande dessinée, enfin pas exactement en bande dessinée, puisque les deux livres qui sont parus sur Michel-Ange, en fait, ce sont des photos, des milliers d'images numériques dont vous vous servez comme dans une bande dessinée. Vous faites de la critique d'art là où les autres ne pensent pas en faire, en fond.
En fait, je fais de la critique d'art au sens où je me suis dit que ce qui importait le plus, c'était d'abord l'image. Quand j'ai fait de la télévision, je me suis dit que c'était mieux que le livre. Sinon, j'aurais pas fait de la télévision. Et donc, c'était mieux que le livre. Pourquoi ? Parce que si on commence à rentrer dans un tableau, on va d'abord décrire de quoi il s'agit. Moi, je me suis dit non, les gens, ce qu'ils comprennent, c'est que un vase est un vase, une fleur est une fleur. À quoi elle ressemble ? Et de là, on va peut-être aller à la totalité du tableau, mais d'abord, on commence par le détail. Le détail, c'est en fait la chair du tableau. C'est ce que j'ai fait à la télé. Et puis après, en bande dessinée, si j'ose dire, c'était la même chose. C'est-à-dire qu'il s'agissait de faire un livre d'art qui était comme un essai, si vous voulez, un livre normal, un essai. Sauf que chacune, non pas chacune des phrases, mais chacun des segments de phrases était illustré. Et vous pouviez comme ça lire toute une phrase sur deux pages en traversant 14 images, en version périphérique. Et du coup, on était toujours au cœur de l'œuvre, si j'ose dire.
Et aujourd'hui, au théâtre. Vous montez sur scène et vous faites ce que vous appelez votre One Art Show sur le Caravage, du haut de la scène du théâtre de l'Atelier.
Oui, je me suis rendu compte de quelque chose, c'est qu'il y avait un avantage du théâtre sur le documentaire, c'est que dans le théâtre, on peut mélanger différents registres qu'on ne peut pas faire dans le documentaire. Dans le documentaire, si vous parlez plus de 2 minutes, ça fait un tunnel, ça ennuie les gens, on ne veut pas être face. Donc toutes les choses sont un peu abstraites, on ne peut pas les mettre dans un documentaire, il faut toujours l'illustrer par des images. Quand vous êtes au théâtre, comme de toute façon, il y a deux choses à regarder. Il y a et l'image que je montre et moi, le temps n'est pas le même. On peut prendre plus de temps et on peut tout d'un coup faire un petit tunnel de 2 minutes ou 3 minutes où on dit des choses un tout petit peu plus générales, un peu plus abstraites, un peu plus intellectuelles. Et puis on le mélange avec des choses qui sont extrêmement concrètes. On est en contact direct avec le public et c'est quelque chose qui est un peu nouveau parce qu'avant, j'écrivais mes textes. Quand je suis au théâtre, je ne les écris pas au sens où j'improvise syntaxiquement. Je m'adresse directement au public et du coup, il est réceptif ou il n'est pas réceptif et je fais en fonction.
En plus, votre côté un peu cabotin qu'on pouvait voir à la télévision, déjà, vous faisiez vraiment du show.
Je me faisais engueuler à la télévision
Oui. Là, maintenant, vous pouvez faire ce que vous voulez.
C'est vrai qu'on n'est plus libre, mais c'est un mélange, si vous voulez. Moi, mon truc, en gros, j'ai 3 trucs. C'est où on essaie de dire quelque chose d'un peu intelligent, donc on fait réfléchir les gens, ça fait 1. 2, il y a un très gros aspect lyrique, sensuel, enthousiaste. La sensualité des images et tout ça. Et puis le 3, c'est le troisième tiers, c'est qu'il faut qu'il y ait un peu d'humour. Et d'ailleurs, l'humour n'est jamais préparé, hein. Il est improvisé sur scène. Mais c'est l'humour parce que comment dirais-je, même quand on dit qu'un tableau de Caravage est inférieur à un autre ou un détail est discutable, ça fait rire tout le monde. Mais ça fait rire parce qu'il y avait un tabou derrière. Pourquoi se permettrait-on de critiquer une partie de Caravage ? Et ça libère les gens. En fait, l'idée, c'est qu'ils puissent, après, avoir se faire leur propre opinion. Parfois, je dis des choses un petit peu exagérées pour que le spectateur se dise « Ah, il a le droit de juger, ben moi aussi, j'ai le droit de juger. » Et à ce moment-là, ils ont gagné quelque chose.
Mais c'est vrai que vous, tout votre travail, alors que ce soit dans les livres, dans les magazines, puisque vous avez votre rubrique dans Elle, où vous comparez deux œuvres d'un même peintre, c'est basé sur la comparaison. Ce que très souvent, la critique d'art n'ose pas faire. Enfin, souvent, la critique d'art, de toute façon...
La comparaison, c'est aussi parce qu'on est parfois à court d'arguments. Il y a un moment où je ne peux pas vraiment dire pourquoi c'est beau. Je vais essayer de montrer en quoi c'est beau. Et pour montrer en quoi c'est beau, je vais parier sur un truc qui s'appelle l'évidence. Et comment vous faites pour dire « Ah ben c'est évident ». Les gens ils voient pas, ils se disent « Ben non, c'est un saint, Saint-François qui regarde un crâne, c'est peut-être beau, mais de toute façon ça n'est pas de mon monde, ça ne m'appartient pas ». Et je leur dis « Ben on va regarder un autre ». Et c'est par l'évidence de la comparaison que les gens se disent « Ah oui, il a peut-être raison, il a marqué un point, j'aime ce tableau et je n'aime pas celui-là ».
Mais souvent la critique d'art n'ose pas comparer parce que ça voudrait dire qu'à un moment on ose dire qu'il y a des Caravages moins beaux que d'autres.
Oui, ou des Raphaël.
Ou des Raphaël, ou des Picasso. Or, le critique d'art, très souvent, n'ose pas faire ça.
Alors, ni le critique d'art, ni les gens qui... Les gens sont libres d'avoir leur avis quand ils voient un film. Ils se foutent de l'avis du critique. Le critique, c'est « Ah oui, bon, ben pas moi, j'ai pas aimé ». Quelque part, les gens se sentent un peu inhibés par rapport à l'art parce qu'ils se disent qu'ils sont des imbéciles s'ils se permettent de pas aimer. Et du coup, moi, mon point à moi, c'est pas d'enseigner aux gens qui m'écoutent ce qui est écrit sur Wikipédia, parce que ça, ils peuvent l'avoir directement, c'est de les rendre sensibles. Pour les rendre sensibles, fatalement, si quelque part Rembrandt a fait un truc si beau, si réussi, c'est que peut-être ailleurs, il l'a fait moins. C'est comme ça qu'on arrive à mettre le point sur. Mais moi, ça reste modeste, mon travail. Je ne dis pas pourquoi c'est beau, je dis où ça se trouve. Qu'est-ce qu'il faut regarder ? À quoi faut être sensible ?
Mais vous, j'ai l'impression que vous êtes sensible un peu à tout, sensible à l'architecture, sensible au mobilier urbain. J'ai l'impression que se promener à Paris, comme on va le faire avec vous, vous allez être critique d'art de tout ce que vous voyez. Critique d'art des voitures, critique d'art des
feux rouges,
des feux rouges,
des bancs publics, de l'arrêt des trottoirs, voilà. Du fait qu'ils sont bien dessinés ou mal dessinés. On oublie toujours que même les choses dites de la nature sont faites par l'homme. Hein. Je veux dire par là que la mainmise de l'homme est très très grande partout. Et c'est sûr que je suis comme tout le monde, je suis terrifié par toutes ces enseignes de Carrefour qu'on trouve au milieu des campagnes, qui d'ailleurs n'auraient pas moins de clients si l'enseigne était en bois. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est pas obligé, puisque tout le monde sait qu'il y a un Carrefour.
Vous avez remarqué
à 50
comme les
km.
Enseignes sont moins belles qu'avant, d'ailleurs.
C'est de terrible, parce qu'elles sont en vrai stock.
C'est sur des matériaux moches.
C'est maintenant. Terrible, ça fait partie du problème, oui. Ouais. Ce qui n'est pas le cas ici.
Et les becs de gaz, comment vous les trouvez, là ? Parce que sur la place Charles-Dullin, il y a de très vieux becs de gaz.
De gaz, oui, et ils ont pas mal fait de reproduire ceux qui existaient il y a à peu près, je crois, un siècle.
Vous avez remarqué qu'on a tendance à aimer ce qui est vieux au détriment de ce qui est nouveau. Vous n'êtes pas comme ça, vous.
C'est vrai. Je suis aussi comme ça pour ce qui est du mobilier urbain et pour ce qui est du paysage en général. Je le suis moins pour ce qui est de l'art.
On va rentrer dans le théâtre de l'Atelier,
oui.
Qui nous tend les bras. Eh bien, entrons.
Oui.
Frédéric Taddeï, en balade avec Hector Obalk sur Europe 1.
Jusqu'à midi et demi, vous êtes en balade avec Frédéric Taddeï et le critique d'art Hector Obalk, qu'on retrouve tout de suite dans un célèbre théâtre en plein cœur de Montmartre avec son directeur.
Bonjour Marc Lesage, vous êtes le nouveau directeur du théâtre de l'Atelier.
Bonjour.
Et vous avez eu l'idée de programmer Hector Obalk.
C'est très aimable.
Voilà, je ne m'attribue pas entièrement l'idée, mais en tout cas, effectivement, je suis ravi d'accueillir Hector Obalk pour cet événement mensuel maintenant, qui effectivement élargit le public et ouvre à d'autres champs de connaissances et autres champs de plaisir.
Vous avez une autre pièce qui va commencer, qui a déjà commencé ou qui commence ce soir ?
Alors, une pièce qui commence ce soir, parce qu'on est en double horaire à 19h et 21h. Et à 19h, donc on commence ce soir avec le collectif L'Avantage du Doute, avec un spectacle qui s'appelle La Légende de Bornéo. La Légende de Bornéo, parce qu'à Bornéo, il y a une légende qui dit que les orangs-outans ne parlent pas, parce que s'ils parlaient, ils seraient obligés de travailler.
D'accord.
Voilà, il y a tout un message, toute une philosophie derrière. Et en fait, l'équipe de L'Avantage du Doute, que vous connaissez un petit peu peut-être, parce que leur film est sorti il y a maintenant 5 semaines, un film qui s'appelle « Tout ce qu'il me reste de la Révolution », un film de Judith Davis, qui est donc une des membres du collectif, et qui nous parle effectivement de la question du travail et quelle question d'actualité.
On dit collectif, on ne dit plus une troupe. Hein.
Oui, alors, parce que c'est pas tout à fait pareil. En fait, c'est pas tout à fait pareil. C'est-à-dire que dans une troupe, il y avait aussi un metteur en scène, il y avait un auteur, un metteur en scène. Là, la particularité du collectif, c'est qu'ils sont tous auteurs-interprètes, mais il n'y a pas de metteur en scène. Ce sont les cinq qui se mettent d'accord pour, effectivement, créer une forme théâtrale très hybride et très surprenante. Alors, c'est à la fois très drôle et en même temps très philosophique. Donc, c'est d'une grande finesse. C'est une très jolie partition.
Vous savez qui a commencé ici aussi, c'est Jean-Paul Belmondo, a débuté dans ce théâtre, dans Médée de Jean Anouilh.
Il y en a quelques-uns qui ont débuté ici.
Brigitte Bardot aussi, ouais, l'invitation au château de Jean Anouilh.
Oui, de grandes, grandes histoires. Première pièce de Françoise Sagan. Enfin, il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de Michel Bouquet, enfin, et tant d'autres. Non, c'est un théâtre vraiment avec une très, très longue histoire. Et nous avons célébré en 2022 à la fois un bicentenaire et un centenaire. C'est ça qui est formidable, parce que sur ce lieu-là, le premier théâtre qui à l'époque s'appelait le Théâtre Montmartre a été créé en 1822. 100 ans après, Charles Dullin a pris la direction de ce théâtre et on a fait le Théâtre de l'Atelier en 1922. Donc ça, c'est assez formidable. Quoi. C'est-à-dire
et on peut monter au bar
On peut monter au bar. Votre bar.
L'hybridité dont vous parlez, vous dites, on dit toujours hybride, c'est un spectacle hybride, ça veut dire qu'il peut y avoir de la danse, il peut y avoir du cinéma. C'est un des grands avantages du théâtre pour moi. C'est-à-dire que je me rends compte, moi qui fais un peu de radio, qui fais beaucoup de presse, qui fais du documentaire, qui fais du livre, je me rends compte que l'endroit où je peux faire tout ce que je veux, y compris danser, y compris faire rire, y compris expliquer, y compris donner des cours, y compris avoir une mimique de mise en scène, c'est le théâtre. Le théâtre, c'est Ça reste le média le plus large dans lequel on peut être le plus libre.
Et c'est vrai que le théâtre, ces dernières années, c'est beaucoup ouvert à toutes les formes de transversalité, que ce soit la danse, la musique.
Et il est de plus en plus influencé par le cinéma, d'ailleurs. Il y a de plus en plus aussi de musique dans les pièces de théâtre pour faire pleurer, pour mettre du rythme.
De vidéos
aussi.
Et puis maintenant, on parle de performance filmique. Il y a un de nos plus grands metteurs en scène français, qui est pourtant très jeune, Cyril Test, qui introduit vraiment une dimension cinématographique dans le théâtre extrêmement forte. Là, le spectacle qu'il vient de faire avec Isabelle Adjani sur Opening Night, c'en est l'illustration. Quoi. Donc, effectivement, c'est une forme qui s'introduit de plus en plus dans le théâtre d'aujourd'hui.
Au départ, mes shows consistaient simplement à prendre le documentaire que je faisais pour Grand Art et à couper le son et le faire en direct.
Vous l'avez fait à la Géode, je me souviens.
Oui, je l'ai fait à la Géode et j'ai fait à l'Auditorium du Louvre. Et je me suis rendu compte que le texte est déjà trop littéraire, que si vous parlez directement aux gens et si vous faites autrement votre film, parce que il faut quand même le dire, ce théâtre est génial parce que on dirait une alcôve, c'est un théâtre à l'italienne, j'ai un écran de 6 mètres de large. Et tout d'un coup, on voit des détails de Caravage de 6 mètres de large avec lequel je peux faire ce que je veux.
Ouais, c'est beau.
Et je les montre parfois en musique et puis parfois je les commente. En gros, c'est comme ça que ça se passe.
Là, on est dans le bar du théâtre au premier étage avec son petit balcon qui donne sur la place Charles Dullin. C'est un bar carré, très joli. Normalement, les spectateurs se pressent tout autour. Qu'est-ce qui fait ce bruit-là? C'est la machine à glaçons.
Ah, c'est un vieux théâtre, donc il y a quand même beaucoup de bruit qui résonne. Donc voilà, les frigos, les transformateurs.
Ah oui, c'est le frigo. Il n'y a pas de barman à cette heure-ci, c'est normal.
Non, à cette heure-ci, oui, non, quand même.
Et c'est vrai que c'est l'un des rares théâtres du 19e siècle qui soit encore en activité aujourd'hui à Paris.
Oui, tout à fait. Et puis, c'est surtout un des rares théâtres à Paris qui n'est pas entouré de murs. Donc c'est un théâtre qui a sa propre place.
Parce qu'il est posé sur la place, et que tout autour, il n'y a rien.
Et c'est ça qui est formidable.
Il est super,
cette place absolument
mais
magnifique.
Mais ça change quoi? C'est vrai, on n'y pense pas. Qu'est-ce que ça changerait s'il y avait des murs? S'il y avait des immeubles qui le touchaient?
C'est pas pareil, mais justement, ça crée ce côté un peu champêtre. Un peu différent de tous les autres. Après, ça aussi, c'est son inconfort, parce que c'est vrai qu'on entend pas mal les bruits extérieurs. Donc, c'est sûr qu'il faut aussi que les artistes intègrent parfois que l'environnement peut être un petit peu plus hostile qu'un théâtre qui est au fin fond d'une impasse.
Il y a plein de photos en noir et blanc encadrées de tous ceux qui sont venus et qui ont joué dans ce théâtre. Ça doit être impressionnant pour vous, Hector Obalk.
Tout est traditionnel dans ce théâtre, sauf le rideau qui n'est pas rouge. Je me suis demandé si c'était pas un effet avant-gardiste, si j'ose dire.
Oui, c'est possible. Même le rideau de fer que vous avez vu, il n'est pas d'une couleur traditionnelle, il est cuivré. Non, c'est sûr que est-ce que c'est l'héritage de Dullin qui veut que...
Il n'y a pas de rideau rouge.
On n'est pas de rideau rouge. Non, mais c'est
tout le reste est doré, tout le reste est magnifique. Et puis surtout, pour l'acteur que j'essaye d'être, On se sent entouré de partout. Il n'y a pas plus agréable à jouer que dans une scène du théâtre de l'Atelier. Il n'est ni trop grand ni trop petit. Pour moi, c'est un plaisir.
Non, mais il y a beaucoup de fantômes aussi. C'est vrai que c'est une maison, il y a beaucoup de fantômes. Et ce sont des fantômes très bienveillants.
Y compris les fantômes des directeurs qui vous ont précédés.
Ah oui, et il y en a eu, et non des moindres. Non, c'est vrai qu'il y a eu... Bon, après, il y a eu une histoire très, très chaotique, hein, surtout au 19e, où ça a été une histoire compliquée, où il y avait régulièrement des faillites, des problèmes, des bouleversements de programmation assez importants. Et puis, petit à petit, le théâtre a...
Il vous reste un peu de temps pour faire un programme.
Ah là, il reste très très peu de temps. Mais enfin, écoutez, on a déjà deux spectacles qui sont. L'un qui démarre ce soir, l'autre qui est déjà présent à l'affiche depuis 10 jours, qui s'appelle Bells and Spells, qui est un spectacle de Victoria Tyrer-Chaplin, donc avec Aurélia Tyrer, sa propre fille. Et c'est un spectacle de.
Toute la dynastie des Chaplin.
C'est toutes les Chaplin qui sont sur scène. Et c'est. Non, c'est magnifique, c'est de l'artisanat, mais c'est du très très grand art. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de technologie, il n'y a pas d'électronique, il n'y a pas de numérique. C'est uniquement du travail d'artisan avec du fil et juste un tout petit peu de carton, et ça fonctionne absolument merveilleux.
Je veux dire, une banalité de quelqu'un qui n'est vraiment pas théâtreux, c'est que le théâtre, on s'ennuie 90 fois sur 100, sauf que quand on s'ennuie pas, c'est tellement plus beau que le cinéma.
Ça, c'est vrai. Après, j'essaie de faire le pari que d'être toujours dans les 10%.
Europe 1. On va vous laisser, merci beaucoup.
Merci, Sage, vous êtes les bienvenus.
Bon travail, on va continuer notre balade avec Hector Obalk dans Paris.
La balade de Frédéric Taddeï et Hector Obalk continue dans le 9e arrondissement, dans un quartier qui rappelle des souvenirs aux critiques d'art.
Donc nous voilà dans la rue Jean-Baptiste Pigalle, qui descend vers
la rue Blanche.
Vers la rue Blanche
où j'étais à l'école, qu'on appelle l'école de la rue Blanche.
Ici, c'est la rue des Cabarets. Il y a encore quelques bars louches.
C'est vrai.
On se demande comment ils survivent.
Comme vous voyez, regardez à droite, là, vous avez un bâtiment qui est en retrait de 4 mètres.
Oui, c'est un immeuble des années 60-70.
Toujours. Pourquoi ? Parce qu'il a le droit d'aller un étage plus haut. Donc il y avait une règle d'urbanisme qui faisait que si vous donnez plus d'espace au trottoir, vous avez le droit à un étage plus haut. Et c'est toujours des immeubles absolument immondes de la fin des années 70 au début 80.
Mais alors la légende qui courait, et j'y ai cru pendant un certain temps, c'était que Georges Pompidou voulait ouvrir la ville à la voiture et que donc les immeubles récents étaient plus loin de la rue parce qu'on avait l'intention d'abattre tous les immeubles anciens. Mais ça n'était pas vrai.
Je ne sais pas.
Là, on est dans la rue des Cabarets, je disais, parce que là, il y a chez Moon, cabaret féminin, qui existe toujours, mais il y a tous les autres qui ont disparu. Hein, le Caprice, le Floresco, la Lune Rousse, le Grand Duc.
Par féminin, vous ne voulez pas dire lesbienne ?
Si, si, bien sûr.
Il faut que j'y aille. Hein, chez Moon.
Réservé aux femmes.
Hein, je crois que je suis allé une fois.
Maintenant, je pense que c'est une boîte de nuit assez classique. Vous preniez cette rue pour aller à l'école, vous n'étiez pas...
Je prenais la rue de Clichy, rue de la Trinité, je montais la rue Blanche, j'étais à l'embranchement avec la rue Jean-Baptiste Pigalle, et mes parents étaient très fiers du fait que je n'avais pas traversé la rue pour rentrer chez moi, puisque en gros c'était le même grand immeuble qui sépare la rue de Clichy de la rue
Blanche.
Il n'y avait
pas des dames qui essayaient de vous alpaguer pour vous faire rentrer dans les bars ?
Non.
Un peu plus haut, là, c'est là qu'est morte la chanteuse Fréhel. Elle était morte dans un...
Ah bon ?
Ouais, dans un hôtel de passe.
Ah bon ?
Un peu plus haut, il y avait l'atelier de Bonnard, Vuillard et Maurice Denis.
Oui, place Vintimille, qu'on appelle maintenant Max Dormois, je crois. Ex-place Vintimille. Et il y a des tableaux qui montrent le square en question.
Puis il y avait le cabaret La Roulotte, qui était tenu par Lulu de Montmartre.
Ah bon ?
Dite Lulu la lesbienne. Qui était un peu la mère maquerelle de pas mal de prostituées de Pigalle jusqu'à l'occupation, et qui a été rachetée par Django Reinhardt, qui en a fait son club de jazz à lui.
Ah oui.
Alors je disais, vous avez la passion de la comparaison. Est-ce que vous comparez les architectures comme vous comparez les tableaux ?
Oui. Oui. La comparaison, c'est l'algèbre, c'est le béaba, en fait. Hein. C'est le béaba. S'y connaître, c'est savoir comparer, c'est voir où ça se passe. Quand vous, tout d'un coup, vous comparez, je dis n'importe quoi, vous voyez, deux vierges à l'enfant du 16e siècle. Quelqu'un qui a un regard un peu rapide et un culte sur la chose va dire que c'est des vierges à l'enfant du 16e siècle. puisqu'elles se ressemblent, puisque un Raphaël ressemble comme deux gouttes d'eau à un Botticelli vu de loin. Qu'est-ce qui les diffère? Qu'est-ce qui fait qu'on peut les distinguer? Eh bien, ça va être les cheveux, ça va être les visages, ça va être les mains, éventuellement le paysage. Donc en fait, c'est toute la différence qu'il y a entre l'art ancien et l'art moderne. C'est que l'art moderne, on voit tout de suite quelle est la personnalité de l'artiste. On voit que Mondrian fait des carrés et que Miro fait des ronds et qu'on ne va pas les confondre. C'est même pas la peine de regarder dans le détail, parce que même si vous allez dans un détail d'un Mondrian, vous n'aurez pas un Mondrian. Vous aurez un tableau abstrait américain éventuellement. Alors que quand vous allez dans le détail de Raphaël ou d'un Jacques-Louis David, vous avez un tableau dans le tableau.
Vous avez un tout petit personnage, comme il y en a derrière la Joconde, par exemple, un paysage que personne ne voit parce que tout le monde regarde la Joconde.
C'est ça. Et d'ailleurs, c'est ça l'art de la peinture. L'art de la peinture, c'est de faire des tableaux dans les tableaux. L'art de la peinture, pourquoi elle est si riche? C'est parce qu'en une image, vous avez peut-être une quarantaine d'images, c'est-à-dire une quarantaine de tableaux qui comptent. La grandeur de la peinture, elle est dans justement ce qui ne fait pas la grandeur de l'affiche. L'affiche n'a d'intérêt que dans son impact général de l'image entière. Alors que l'image entière dans un tableau de la grande peinture n'est qu'une des images que offre un tableau, lesquelles sont enchâssées les unes dans les autres.
Mais est-ce que vous faites la même chose avec les gens? Par exemple, là, les gens qui sont au loin, vous voyez passer, il y a deux hommes qui marchent. Est-ce que vous les comparez de la même manière?
Non. Les hommes, non.
Les femmes, parfois.
Je ne compare que des artefacts, des choses faites.
Ah, vous ne comparez pas les gens?
Non, je ne compare pas les gens. Si vraiment on rentre là-dedans, si, un petit peu. Il y a un moment, je me suis beaucoup interrogé sur qu'est-ce que ça veut dire être ami. Et j'ai essayé de lister tous les gens qui étaient amis, plus ou moins amis, etc. etc. Et puis je me suis rendu compte que finalement, il y avait des critères qui n'avaient absolument rien à voir. Il y a les amis parce qu'on les connaît depuis très longtemps, et finalement on a mis l'étiquette ami. C'est pas toujours très sincère, mais il y a quelque chose de profond qui peut rester. Et on est amis en général parce que, en fait, on peut pas savoir pourquoi on est amis, mais on se rend compte qu'on est plus amis, la comparaison vient maintenant. On est plus amis avec Paul qu'avec Pierre, parce qu'avec Paul, on va dire des choses plus intimes qu'avec Pierre. Et souvent, c'est ça l'amitié. C'est le signe de... C'est-à-dire quand les gens vous disent « Oh là là, c'est intime », je dis « Ben non, donc t'es pas un ami si tu veux pas me dire un truc intime ». Donc il a le critère en vérité. Il est dans le fait qu'on dit des choses qu'on n'ose pas dire aux autres. Et donc j'ai commencé à faire mes petites listes de gens avec qui j'étais ami. Je me suis rendu compte d'un certain nombre de critères qui faisaient qu'il n'y avait pas une catégorie, il y avait certainement un panaché de catégories. C'est vrai que ça m'intéresse. Je suis un peu influencé par ma mère là-dessus. Je suis un peu structuraliste, fonctionnaliste. C'est-à-dire que j'aime faire des classements.
On va la voir, votre mère, on va chez elle. Là. Elle est linguiste. C'est Henriette Walter. Mais d'abord,
on passe écouter... devant l'école de garçons et l'école de filles. De là, et voilà. Et là, c'était séparé.
C'est la rue Blanche, c'est là où
j'étais. Je suis rentré en sixième quand on a enfin mélangé les garçons et les filles.
Juste donc, en dessous du théâtre
époque,
de Paris.
À mon époque, c'était encore l'époque où on commençait l'art moderne. 1966-67, je crois, et j'étais à cette école-là.
Eh bien, on va écouter Frank Sinatra qui nous chante Avril à Paris.
Ça me semble tout à fait approprié.
Puisque ça commence demain, le mois d'avril. April in Paris, Frank Sinatra. I never knew the charm of spring. Never met it face to face.
Chestnuts in blossom, holiday tables under the tree, April in Paris. This is a feeling that no one can ever reprise. I never knew the charm of spring. met it face to face. And I never knew my heart could sing. Never missed a warm embrace till
C'était April in Paris, interprété par Frank Sinatra. On se retrouve dans un instant avec le critique d'art Hector Balk. On est en train de tourner autour de son école primaire. Il est tout ému.
Hector Obalk qui a passé son enfance à Paris, alors il nous fait découvrir ses coins préférés jusqu'à midi et demi avec Frédéric Taddeï.
Nous sommes rue de la Trinité avec Hector Obalk et les cris qu'on entend sont les cris des enfants.
Dont je faisais partie quand j'étais en classe de 11e, 10e, 9e, etc. etc.
derrière l'église de la Trinité.
Et quand j'étais en classe de 9e, je rêvais d'être institutrice de 9e. En classe de 10e, institutrice de 10e. Il me dit pourquoi pas instituteur, parce que ça n'existait pas à mon époque. Et là, on contourne l'église de la Trinité qui a été construite par un certain Balu. Et ce même Balu possède sa rue qui s'appelle la rue Balu, qui est non loin d'ici. Donc je traversais, je contournais, si vous voulez, toute l'école, on entend les bruits des enfants, pour aller chez maman et chez papa, rue de Clichy au 26.
Alors vous avez écrit un livre qui s'intitule « Aimer voir », dans lequel vous expliquez aux gens comment regarder un tableau.
Oui, tout à fait.
Mais au fond, j'ai l'impression que vous aimez voir d'autres choses que les tableaux. Aimez voir le cinéma, les séries télévisées, la mode.
Le jeu des
acteurs.
Vous
avez fait connaître très jeune avec un livre intitulé « Les mouvements de mode expliqués aux parents », qui avait été un gros best-seller à l'époque.
C'est vrai.
Vous aimez regarder. Hein. Vous êtes un peu un critique d'art de tout.
Oui, ça s'appelle le mot prétentieux, c'est esthéticien. Mais en fait, c'est un peu ça.
C'est pas très prétentieux parce qu'une esthéticienne, c'est quelqu'un qui s'occupe de la beauté des femmes dans un petit
c'est vrai.
Cabinet de beauté.
C'est vrai, mais dans un autre
institut de beauté.
Dans un autre registre, c'est une catégorie de philosophes. On dit esthéticien pour dire professeur d'esthétique, etc. Oui, en effet, vous voyez, il y a deux choses. Il y a aimer voir, il y a faire aimer. Aimer voir. C'est ce pourquoi je suis amateur d'art. Et faire aimer, c'est ce pourquoi je suis critique d'art. C'est-à-dire que j'essaye de communiquer mon enthousiasme, mon sens du jugement, mon intérêt pour les œuvres d'art, quel que soit leur siècle. Et ce quel que soit leur siècle n'est pas évident.
Je me souviens de vous. Je me souviens qu'un jour, vous aviez donné une conférence sur intitulée « Sensible à la typographie
».
Il y avait beaucoup de gens qui se pressaient là et leur expliquaient pourquoi telle typo était plus belle que telle autre.
Alors déjà, il y a deux choses. Il y a le fait que la typographie est un art mineur.
Oui, mais maintenant que tout le monde a un ordinateur, tout le monde est sensible un peu à la typo.
Exactement. Et moi, qui suis un défenseur des arts mineurs, je continue à penser qu'ils sont mineurs. C'est là le paradoxe. Parce que ceux qui sont dans la typographie vous diront toujours, ou dans la bande dessinée, ou dans la chanson française, qu'ils ne sont jamais dans la zone art mineur. Ils ont tort. Et moi qui suis un grand amateur de typographie, je leur dis que oui, c'est-à-dire qu'un chef-d'œuvre de Garamond, par exemple, ou de Roger...
Ce sont des noms de typos.
Hein. Oui, ou de Roger Excoffons, celui qui fait les typos d'énormément de bars qu'on va voir ici, je vais essayer de vous les signaler. Eh bien, bon, évidemment, ça ne vaut pas Dürer, mais dans son
Dürer,
genre...
c'est un graveur.
Exactement. Mais dans son genre, ça peut être admirable. Et tout d'un coup, je me suis passionné pour la forme d'un S. Je dis la forme d'un S et pas la forme d'un X. Parce que le X, c'est juste une croix. Un S, tout d'un coup, il y a des courbes. Et donc, il y a mille façons de faire le S, alors qu'il n'y a pas mille façons de faire le T. Et on rentre dans ce monde-là. Et tout d'un coup, on voit l'humanité entière dérouler sur vos yeux, rien qu'en regardant un catalogue. Et l'important, c'est finalement de reconnaître. Ah oui, ça, c'est un Excoffons. Ah oui, ça, c'est une antique olive. Et c'est comme ça qu'on finit par s'y connaître. Encore une fois, par comparaison, vous avez raison.
Et aujourd'hui, alors, vous êtes plutôt quel typo?
On est à une époque où il n'y a pas beaucoup d'inventions typographiques, donc on reste sur des typos qui datent encore 20 ans ou 30 ans. Et donc on reste sur des, sur des basiques. Donc je n'en reconnais aucune. J'ai les miennes. Les miennes, c'est le Korolev et le Gararon. Je vous laisse le choix des autres.
Et nous voilà devant l'immeuble dans lequel vous avez grandi, hein, rue de Clichy, c'est très bruyant. Très bel immeuble Art déco.
Non, 1900 exactement. C'est un immeuble qui imite le style un peu rococo quand on est à l'extérieur et qui est plus classique à l'intérieur. C'est là que j'ai quitté l'appartement de mes parents quand j'avais 27 ans. Et maintenant, j'en ai 58 et j'y reviens.
Vous y revenez, vous y avez fait votre bureau, je crois, c'est ça ?
Mais surtout, j'essaie d'être à côté de ma mère qui n'est pas toute jeune. Et je déteste la savoir seule.
Alors, c'est une entrée assez majestueuse. On traverse des cours et des jardins. C'est très, 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 très haut de plafond. On n'est pas encore dans l'appartement. Hein, mais...
À l'époque, les immeubles qui étaient devant coûtait plus cher que ceux qui étaient derrière. Nous, nous sommes derrière. Pourquoi est-ce que ceux qui étaient devant coûtaient plus cher ? Parce qu'il n'y avait pas de voiture. Et donc, c'était plus pratique pour mettre ses chevaux et d'aller directement de son cheval ou de sa calèche à son immeuble. Et les immeubles les moins chers, c'est ceux qui étaient à l'arrière-cour. C'est exactement le contraire aujourd'hui.
Eh bien, on se retrouve dans un instant chez la maman d'Hector Obalk, la linguiste Henriette Walter.
Bonjour maman, on va monter en haut.
Frédéric Taddeï se balade avec Hector Obalk sur Europe 1.
Et on rejoint tout de suite Frédéric Taddeï et Hector Obalk devant chez quelqu'un qu'il connaît très très bien.
Nous sommes devant la porte de l'appartement et Hector Obalk s'apprête à sonner chez sa mère.
Je m'en demande, ça va ?
Eh oui, voilà.
Thomas.
Bonjour.
Bonjour Henriette, vous allez bien ?
Bonjour, oui. Vous voulez qu'on se mette là ?
À ton bureau, tiens.
Alors nous voici dans le bureau d'Henriette Walter, célèbre linguiste qui a réussi à publier des livres qui ont été des best-sellers, hein, quand même,
et
que
oui,
ce soit
j'ai eu cette chance, hein.
Le français dans tous les sens ou l'aventure des langues en Occident, qui avait eu le prix d'électrice de Elle, qui n'était pourtant pas des livres faciles.
Oui, mais en même temps, j'avais eu le prix de la Société des gens de lettres, temps. Donc il y avait deux genres de prix. Voilà.
C'était à la fois universitaire et grand public.
J'ai essayé.
Et là, tu es sur un autre livre, là, maman ?
Alors là, je suis sur un autre livre qui est un petit peu particulier par rapport à tous mes autres livres, puisque le dernier, c'était sur les noms des arbres. C'était très, très savant, très, beaucoup de choses très, très compliquées. Là, je redescends un petit peu sur terre et sur la nourriture. Et je fais un livre sur les mots de la table et de la cuisine.
Oh, ben voilà qui va faire certainement un grand succès.
Je ne sais pas trop, parce qu'en fait, ce n'est pas un livre de recettes. On ne va pas savoir mieux faire le foie gras ou des trucs comme ça. Simplement, on va savoir, par exemple, que foie, ben, il vient d'un mot qui signifie la figue. Alors, pourquoi la figue, on se dit, hein ? Alors là, on le sait, grâce à un grand cuisinier de l'époque des Romains, qui a expliqué que le bon foie gras se faisait en donnant aux oies de quoi manger très, très, très largement pour leur faire un foie extraordinaire, des figues.
Des figues ? Ouais, elles mangeaient des
d'où
figues.
D'où ficatum iecur, qui était le mot latin. Ficatum, c'était les figues. Iecur, c'était le nom du foie. Mais le nom du foie, on l'a oublié. Et c'est ficatum qui est resté pour dire foie en français, en italien, en espagnol, etc.
Hey, c'est amusant.
Voilà. Alors oui, il y aura des choses un petit peu amusantes et puis des choses peut-être un peu savantes aussi.
Et tu travailles sur combien de mots avant de faire ton livre ? Un millier ?
Peut-être un millier, aussi avec des mots qui ont changé de sens, des noms qui ont changé de sens, comme par exemple la viande ou l'assiette. Ça n'avait pas ce même sens. Alors la viande, à l'époque, c'était pas la viande qu'on connaît, c'était le fait de manger. Ça vient du verbe latin vivere, qui veut dire viande, qui veut dire vivre, en fait, les vivres, etc. Tandis que l'assiette, c'était l'endroit où on était assis sur la table, voilà, après de la table. Et alors, on me demande souvent, mais alors, Mais alors, ils n'avaient pas d'assiette, les Romains. Mais ils avaient, au Moyen-Âge. Mais si, ils avaient quelque chose. Ils avaient autre chose. C'est-à-dire qu'ils avaient, entre deux personnes, il y avait un morceau de pain. Et le morceau de pain servait d'assiette. C'était là qu'on mettait la viande. Et puis, la sauce pouvait passer sur le pain. Et c'était très, très bon. Et c'est ce qui est intéressant, c'est qu'à ce moment-là, puisqu'il y avait deux personnes qui se partageaient ce pain, eh bien, on les a appelés les copains. Copains. Alors, on a non seulement copains, mais on a aussi compagnons, qui était la même forme, mais un petit peu plus longue, voilà, avec une forme
un petit peu copain, plus complexe. Je savais pour copain, je savais pas pour compagnon. Je sais pour camarade, ça veut dire qu'on
partage la chambre. Alors, camarade, c'est celui qui partage la chambre. Oui. Caméra. C'est ça.
Henriette Walter, on peut le dire, vous avez 90 ans
oui.
Maintenant et vous travaillez encore.
Non, mais comme vous voyez, c'est avec plaisir.
Hein. Oui, ça a toujours été avec plaisir.
Oui, écoutez, si on n'a pas de plaisir à travailler, il ne faut pas le faire. Ce n'est pas bon. Après, ça n'est pas bon. Mais il faut dire que moi aussi, de temps en temps, je me relis et je me dis, ce n'est pas bon. Je recommence. Mais ça n'est pas un déplaisir de recommencer. C'est au contraire aussi, j'ai fait un petit progrès. Malgré tout, c'est pas mal. Tant mieux, merci.
Voilà. Et est-ce que vous sentez l'influence que vous avez pu avoir sur votre grand garçon maintenant ? Est-ce que vous le voyez dans son travail et vous dites, tiens, ça y tient de moi ?
Un peu. Pas complètement, parce qu'il est beaucoup plus créatif que moi. Hein. Il est artiste, lui.
Il est moins sérieux, vous voulez dire ?
Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Non. Il est plus artiste que moi. Moi, je ne suis pas créative. Lui, il l'est. Vous voyez, moi j'ai des documents. Okay, je vais chercher les documents.
Quant à l'influence.
Hein, mais l'influence, qu'est-ce que c'est l'influence ? Je ne sais pas, c'est toi qui dis que je t'ai influencé. Mais en fait, il me semble que c'est moi qui ai été influencée par lui.
Ah oui ?
Oui, parce que quand il avait fait un autre livre, quand il était très jeune, j'avais un petit peu participé à ce travail. Et il avait lui-même lu mes premiers chapitres du français dans tous les sens. Et il m'avait un petit peu corrigé. Il m'avait expliqué, tu sais, dans les encadrés, un encadré doit se lire en soi. C'est-à-dire qu'il ne faut pas être obligé de lire avant et de lire après. Il faut que ce soit un ensemble. Et là, j'ai compris. Et c'est moi qui ai appris de lui. Ce n'est pas lui qui a appris.
Moi, j'ai l'impression que là où vous l'avez influencé, c'est que c'est toujours un peu vous qui l'avez envie de faire rire. Et quand très souvent, dans son spectacle sur Caravage aujourd'hui, où il y a des tas de moments qui sont très amusants, et j'ai toujours l'impression que c'est à vous qu'il s'adresse. C'est vous qui me faire marrer.
Peut-être. Il faut dire aussi que c'était le cas lorsque mon mari était vivant. Et donc, il était toujours... il faisait le spectacle pour les deux, parce que mon mari était très admiratif de mon fils aussi.
Non, ce qu'il faut surtout dire, c'est que maman m'a appris la rigueur, c'est-à-dire le plaisir qu'on a, non pas à avoir tout de suite une idée sur quelque chose, mais d'établir le corpus, c'est-à-dire la liste des choses qu'on doit faire. Elle, c'est la liste des mots, moi, c'est la liste des détails, et c'est à partir d'une liste la plus grande possible qu'on fait des comparaisons, qu'on fait des classements et qu'on tire des idées. C'est l'influence de la linguistique
fonctionnaliste. Et c'est vrai qu'en linguistique, c'est ça, on part d'un corpus, on l'analyse, on essaye de comprendre et puis
après, on trouve des choses ou on ne les trouve pas. Elle, c'est sur le plan de la fonctionnalité du langage. Moi, c'est sur le plan de l'amour des images.
Ces images, je crois que vous les gardez au rez-de-chaussée, ici, dans votre ordinateur.
Je ne vais pas laisser ma mère toute seule. Je vis le plus souvent à côté d'elle. Maman, je t'embrasse, je descends.
Allez.
Eh bien, pour fêter ça, je vous propose d'écouter Stabat Mater. Stabat Mater, ça veut dire la mère se tenant debout. Hein, voilà qui correspond bien à Henriette Walter. Le Stabat Mater de Vivaldi, la version de David Damels et Europa Galante. Je vous laisse entendre ça. Oh, C'était un extrait du Stabat Mater de Vivaldi, Amen, par la version de David Damels et Europa Galante. On se retrouve en bas de l'appartement avec Hector Obalk dans un instant.
C'est dans l'appartement de la maman d'Hector Obalk que la balade de Frédéric Taddeï et du critique d'art continue.
Nous sommes toujours chez Henriette Walter, mais au rez-de-chaussée de l'appartement où Hector Obalk a fait son bureau. Vous avez une partie de vos ordinateurs, parce qu'il y en a d'autres chez vous. Et là, il y a ce que vous appelez votre base de données. En effet, quand on voit vos spectacles ou quand on lit vos livres, on voit des reproductions absolument extraordinaires de tous les tableaux. Les Caravage qu'on voit là, au Théâtre de l'Atelier sont plus grands et plus détaillés qu'on ne les verra jamais. On ne les verra jamais mieux quasiment que vous ne les montrez. Et tout ça, ça sort de votre ordinateur. Alors comment avez-vous fait pour glaner toutes ces images, tous ces tableaux?
Enfin, c'est juste mon travail de reporter. Au départ, comme vous savez, j'ai fait des films pour Paris Première, etc. Et donc, j'ai gardé toutes mes archives, ce qui m'a permis de mieux travailler à tous les tableaux que j'ai fait. En gros, ça fait 18 ans que je filme les tableaux le mardi avec des éclairages, etc.
Partout dans le monde?
Partout dans le monde, on peut le dire, oui. J'ai dû faire 45 voyages par an. J'ai dû visiter 450 collections différentes. Et à chaque fois, je me suis intéressé, juste pour mes comparaisons, juste pour faire mes textes, juste pour faire ma cuisine, si vous voulez, je me suis intéressé à comparer les visages, les mains, les ciels.
On dit ciel. Non seulement il y a les tableaux, mais en plus, il y a les détails, puisque vous avez scindé les tableaux. Vous avez les Caravage, Rubens, Latour, Bernin, Michel-Ange. Ils sont tous là, vous avez tous leurs tableaux, et en plus, vous avez fait les visages, les mains.
Alors, on n'a pas toujours tous leurs tableaux, on fait ce qu'on peut. Si déjà vous avez les deux tiers des tableaux, vous êtes très content. Aucune exposition ne va réunir deux tiers de tableau, ils vont réunir peut-être un dixième. Dans le cas de Caravage, c'est un peu particulier, j'ai passé tellement de temps dessus que sur les 67 tableaux de sa production, il en a fait 75, mais certains ont été détruits, donc il en reste 67 visibles.
Il y a ceux qu'on lui attribue qui ne sont pas forcément de lui.
Je ne les compte même pas. Là, ça ferait 40, 80, 90. Dans ceux qui sont vraiment sûrs de chez Caravage, j'ai dû, donc sur 67, j'en ai 62. Alors c'est très intéressant cette question-là, parce que quand vous tapez dans Google ou n'importe quoi, et que vous tapez, Saint-Pierre, Saint-Mathieu, Saint-Jérôme, ben vous allez avoir peut-être 400 images où il y aurait écrit Saint-Jérôme et Caravage, parce qu'il y aurait des couvertures de livres, des ceci, des cela. Ce qui est intéressant, c'est que c'est pas la profusion, c'est le fait qu'il n'y a que trois Saint-Jérôme peints par Caravage, il n'y en a pas quatre. Et les trois, vous les avez là. Et donc, on voit d'ailleurs qu'ils sont habillés pareil. D'ailleurs, on peut apprendre l'histoire de l'art comme ça.
Oui, là, ils viennent d'apparaître sur votre ordinateur, comme par magie.
Il y a trois Saint-Jérôme qu'il a fait en 1605, 1607 et 1606, dans trois collections différentes. Et on voit que c'est à chaque fois un vieil homme, parfois avec à côté d'une tête de mort, même toujours à côté d'une tête de mort, qui est torse nu et qui médite sur la mort. Mais si je fais sur Saint-Jean-Baptiste, même on ne connaît rien à l'histoire de l'art, on voit que, non pas Saint-Jean-Baptiste, mais on va dire Saint-François d'Assise, il est habillé en moine. Et quelque part, on va beaucoup plus vite à comprendre l'histoire de l'art en reconnaissant les personnages.
Il a toujours un squelette, une tête de squelette, un memento mori, comme on dit.
Pas toujours. Là, il y en a deux où c'est le cas. Et en effet, il médite soit sur une croix, soit sur un crâne. Mais l'important, c'est pas celui-là. L'important, c'est que tout d'un coup, si j'ai envie de rentrer dans un tableau en question, du tableau que je vous ai montré, je tape dessus, et en tapant dessus, je vais voir les différents détails. Et en regardant les détails, je peux avoir, une main, un pain ou un visage. Je tape sur le visage, et là, tout d'un coup, j'ai les 450 visages de Caravage, classés en plus dans l'ordre de leur âge, c'est-à-dire du plus jeune au plus vieux. Tout d'un coup, on voit toute l'humanité de Caravage, si vous voulez, dans une galerie de 300-400 images qui sont sur des colonnes dans une galerie normale. Et ça, c'est toute l'affaire. C'est-à-dire, tout d'un coup, on se rend compte qu'est-ce qu'a à dire Caravage sur le monde. On peut déjà le résumer à la quantité des personnages. On voit que donc il y a surtout des jeunes et faibles, on voit surtout qu'il y a très peu de femmes, on voit surtout que les hommes adultes sont plutôt laids parce que ce sont des bourreaux qui jouent le rôle de bourreaux.
Parce qu'il est ramassé dans la rue, ces modèles.
Hein. Exactement. Et on voit sa peur de la vieillesse, parce que les vieux, ils ne sont pas vieux, ils sont ultra vieux, ils ont la peau calcinée. Donc il y a une...
Il a été rassuré, il est mort à 36 ans, Caravage.
Voilà. Et donc on voit que c'est un pédophile qui détestait, qui avait peur de vieillir. Bon, je plaisante à peine, mais c'est pédophile au sens le plus acceptable du terme. Bien. C'est comme ça que je crée, si vous voulez, je trouve mes idées et que je me rends compte, tiens, je regarde seulement les pieds, j'appuie sur le truc pied, et je me rends compte que tous
les carrés... Vous vous rendez compte que c'est une banque de données comme celle-ci, ça doit être unique au monde. Google en rêverait.
Ils sont venus me contacter 5 ou 6 fois et ils m'ont dit nous n'achetons pas, nous échangeons. Ils ont changé. C'est toute l'arnaque de Google, c'est toute l'arnaque de la gratuité. C'est-à-dire que on fait partie de leur monde, on doit déjà être très content. Donc je ne marche pas avec ça. Pour l'instant, je m'en sers seulement comme outil personnel. C'est intéressant de voir que les pieds. Tout d'un coup, vous vous rendez compte que tous les pieds ont les ongles sales. Est-ce que c'est vrai?
Les pieds de Caravage.
Les pieds de Caravage et la plante des pieds sales. Et tout d'un coup, vous allez autrement. Si je devais résumer, vous pouvez passer 3 heures à rentrer dans un tableau, à voir le détail, à penser que ce détail, à voir tous les autres détails du même type, à prendre n'importe quel détail du même type, à revoir le tableau ou à voir un autre tableau auquel il appartient, comme je fais comme ça, tout d'un coup, toc, je tape sur le tableau, ah, c'était ce tableau-là, et vous tournez en rond. Et en tournant en rond comme ça, vous pouvez passer 3 heures à raison de seulement une
Mais
seconde.
Vous n'avez jamais
secondes,
pensé, moi j'adorerais, vous pourriez en faire une plateforme par abonnement, une SVOD, comme on dit aujourd'hui, créer le Netflix de la peinture, où on aurait accès à tous les chefs-d'œuvre. Ce soir, si j'étais abonné, je me dis, je vais regarder les mains peintes par les grands maîtres italiens de la Renaissance, toutes les mains de Michel-Ange, de Titien, de Botticelli, de Raphaël, de Piero de la Francesca.
Je cherche des mécènes pour pouvoir mettre au point ça sur au moins 50 d'artistes. Si j'avais un mécène, je le ferais. Pour l'instant, ça ne sert qu'à moi.
Mais vous ne préférez pas le mettre des abonnements? C'est-à-dire que vous aurez des gens qui s'abonneront, ça remplacera le mécène?
Oui, je suis d'accord.
On est au 21e siècle. On n'est plus au 18e.
Je suis d'accord, mais j'ai une vertu qui est celle d'être pédagogue. Et ça m'embêterait beaucoup que tout un chacun ne puisse pas y accéder gratuitement. Je suis quand même, si vous voulez, comme une vocation dans la vie, c'est de donner le goût de l'art. Donc, j'espère avoir un mécène et peut-être que ça arrivera. Je tiens à préciser que toutes les autres, les grandes bases de données qui existent, celles de Google, Scala, Bridgman, Corbis aux États-Unis, sont toutes plus riches que moi en termes de nombre de tableaux, et sont toutes moins riches que moi dans leur nombre de tableaux pour les artistes qui comptent. C'est-à-dire qu'ils vont avoir 30 Titiens, moi j'en avoir 130, vous voyez. Et surtout, ils sont beaucoup moins riches que moi dans les termes de la qualité des détails.
Eh bien, nous allons continuer notre balade avec Hector Balk, direction cette fois le musée Jacques Marandré. On se retrouve juste après les infos.
Frédéric Taddeï, en balade avec Hector Balk sur Europe 1. Europe 1, en balade avec Hector Balk, Frédéric Taddeï.
Nous sommes boulevard Haussmann avec Hector Balk. On vient de passer devant la maison où habitait Proust au deuxième étage de 1907 à 1919. On se dirige vers le musée Jacques Marandré. Le boulevard Haussmann, c'est un grand boulevard. Il y a beaucoup de voitures, il y a beaucoup de bruit. Je me disais, au fond, vous avez commencé, comme la plupart des critiques d'art, Hector Balk, par écrire dans les magazines. Et puis après la sortie d'un de vos livres, Andy Warhol n'est pas un grand artiste, vous êtes retrouvé barré par tout le monde, par le milieu. Comment pouviez-vous oser dire que Andy Warhol, cette vache sacrée de l'art contemporain, n'était pas un grand artiste?
On peut le dire, hein, j'avais fait une sorte de succès best-seller sur la mode à 24 ans. J'ai sorti mon livre à 29 ans et j'ai eu une traversée du désert qui a duré une dizaine, plus de douzaine d'années.
Vous ne pouviez plus écrire nulle part et au fond, c'est comme ça que vous êtes allé à la télévision. Oui, sur donc, Paris Première, sur
avec,
Canal+.
Avec Ardisson.
Ensuite, dans nulle part ailleurs. Ça a été votre chance, au fond?
La télé, oui. Enfin, il y avait une double chance. La télé m'offrait cette chance, mais il y avait le fait que le médium télé était très bon pour la peinture. C'est-à-dire que vous montrez plus de détails dans un petit reportage que vous faites sur Paris Première que ce que vous faites quand vous faites un article dans Elle. Donc c'était vraiment... c'est magnifique, la télévision.
Et puis vous êtes mis à filmer vous-même les œuvres, ce qui changeait tout.
Très mal d'ailleurs au départ, mais en fait, je me rends compte que même quand c'est mal filmé, c'est pas très grave. L'important, c'est le sens qu'on donne aux choses. Et puis finalement, après, les gens, ils peuvent aller voir le tableau en vrai.
Une des conséquences pour moi, c'est qu'au fond, vous vous intéressez pas tellement à l'artiste. Vous, ce qui vous intéresse, c'est la peinture. Et quand vous faites votre show sur Caravage, mais quand vous parlez de Michel-Ange dans votre livre...
Oui, il n'y a pas trop sa biographie. Dessinée,
oui, ça ne vous intéresse pas tellement de savoir avec qui il était copain, s'il se battait en duel, de qui il était amoureux.
Non,
non, ça ne vous intéresse pas.
Non,
ça.
Pourquoi? Parce que je me mets à la place de celui qui dit Moi, on me l'a fait pas. Pourquoi est-ce que Caravage mérite qu'on s'intéresse à lui ? Donc, je m'adresse pas au snob qui dit, ben, de toute façon, il faut connaître Caravage, donc une anecdote de plus, c'est très bien. Non, on n'est pas obligé. Il faut qu'il mérite sa place. Pour faire mériter sa place, eh bien, il va falloir montrer l'œuvre. Et pourquoi est-ce que la biographie peut m'intéresser seulement si elle se voit dans l'œuvre ? Par exemple, on peut pas nier. Il y a un moment, je crois que c'est les années, à la fin du XVIIe siècle, les années 86-7, je ne dis pas de bêtises, Goya, sa palette devient toute sombre. Comme par hasard, mais toute sombre. C'est-à-dire que c'était vraiment le peintre de la vie galante, si j'ose dire, de la vie madrilène, de la vie populaire. Et tout d'un coup, ça devient le peintre des incendies, des catastrophes, des viols, etc. Avec, une, peinture, avec une palette extrêmement foncée. Et bien là, c'est clair, c'est exactement comme par hasard le moment où il a ses étourdissements et il perd son équilibre et il devient plus ou moins sourd. Donc là, il y a un rapport, ça peut se voir. Il y a une marque dans la peinture. S'il n'y a pas une marque dans la peinture, ça ne m'intéresse pas. Quand Caravage, et ça je vais le faire dans mon dernier show puisque je vais montrer l'exil de Caravage qui passionne tout le monde, tout d'un coup, il est accusé de meurtre, il a fait un meurtre lors d'une rixe, ce n'est pas tout à fait un meurtre exactement, c'est un duel on va dire. Et puis il s'en va en Sicile et à Naples. Et à ce moment-là,
il est condamné à mort, il s'enfuit.
Il est condamné à mort, il fuit la police du pape, on pourrait dire, et il essaie de se faire racheter. Et là, sa peinture, de façon assez fine d'ailleurs, change. Il reprend à peu près les mêmes sujets dans un grain plus, dans une texture plus granulée. Là, ça a du sens. Alors là, je vais le montrer. C'est comme ça que autrement dit, je donne toutes ces chances à l'œuvre de l'artiste et je ne fais pas du people.
C'est marrant parce que pendant que vous parliez, on a sur cette avenue, sur ce boulevard Haussmann, on est passé devant énormément de vitrines fracassées. Vous avez un souvenir des Gilets jaunes ?
Oui, alors ils n'ont pas fracassé le musée Jacques-Marie-André, donc je voudrais signaler qu'il fait partie des musées. Il y en a pas mal comme ça, il y en a à Boston, il y en a à New York, il y en a à Londres. C'est toujours une maison privée qui est devenue un musée. Par exemple, c'est la Frick Collection à New York. C'est exactement l'équivalent, c'est-à-dire c'était quelqu'un qui, au début du 19e siècle, au début du 20e siècle, a fait une maison à l'ancienne, dans une architecture qui peut dater d'avant, si vous voulez, et qui a fait une maison privée et qui est devenue un musée. C'est le cas de la Wallace Collection, qui est un très beau musée, qui se trouve à Londres. Et là, c'est le musée Jacques-Marie-André à Paris, qui est un musée délicieux.
Alors, effectivement, monsieur André, Édouard André, était l'un des héritiers des plus grosses fortunes du Second Empire.
Et il s'est marié avec madame Jacques-Marie.
Voilà, qui, elle, était peintre. Et ils ont été des collectionneurs extraordinaires. Et là, sur 5000 mètres carrés, ils ont bâti une formidable résidence particulière qu'ils ont léguée à l'État avec leur collection.
Là, on voit quoi ? Moi, je découvre avec vous, je n'ai pas vu l'exposition d'un certain...
C'est Hammershøi, le maître de la peinture danoise.
C'est ça, c'est un Danois très connu. Donc, je n'ai jamais vu de rétrospective et c'est quand on voit une rétrospective qu'on peut vraiment se rendre compte de la valeur d'un artiste. Et là, qu'est-ce que je vois ? Je vois une peinture un peu floue dans une prise de vue très cinématographique. J'en aurais un avis en regardant l'exposition si on la regarde à l'intérieur.
Parce que moi, ce que je peux vous dire sur Hammershøi, parce que ça se voit sur l'affiche, c'est qu'il a inventé le portrait de dos.
Oui.
Jusqu'à lui, il n'y avait que des portraits de face, de profil, de trois quarts pendant la Renaissance. Et lui, il invente le portrait de dos. Et là, c'est une femme de dos.
Dans l'encoignure
d'un appartement dépouillé qui était toujours l'appartement d'Hammershøi. Il a tout peint tous ses tableaux dans son propre appartement, qui à l'époque, la mode, c'est plutôt de surcharger les appartements. Et lui, il était complètement nu.
Vous en savez plus que moi, il y avait une exposition très intéressante qui comparait Hammershøi avec Carl Theodor Dreyer, qui est un cinéaste, en montrant qu'ils avaient les mêmes vues et les mêmes plans. Et je ne sais pas qui avait influencé l'autre. Il faudrait que je
c'est
me plonge.
Des Danois tous les deux, en tout cas.
Voilà.
Eh bien, nous allons rentrer dans le musée Jacques-Marie-André. On s'y retrouve dans un instant.
Frédéric Taddeï et Hector Obalk viennent d'arriver dans un des musées de beaux-arts préférés du critique d'art dans le 8e arrondissement de Paris.
Nous entrons maintenant dans le musée Jacques-Marie-André par l'entrée principale, c'est-à-dire l'arrière du musée. Il y a deux lions majestueux, des escaliers, des colonnes. On croirait rentrer dans un temple romain. Les riches savaient vivre à l'époque. Hein.
Avec tout le mauvais goût du 19e siècle. Enfin bon, ça reste flamboyant.
Ça reste effectivement assez impressionnant.
C'est très 19e.
C'est l'un de vos musées préférés ?
Pour les expositions et pour une vingtaine de chefs-d'œuvre.
Là, on rentre par le salon de thé. Bonjour. Il y a les parquets qui grincent. Et là, on est chez monsieur et madame Jacques Marandré. Hein.
C'est incroyable.
Ils vivaient ici.
Il y a une salle avec rotonde. Là, il y a deux jardins. Deux jardins d'ailleurs assez rares, qui ne sont pas très intimistes pour des natures mortes, qui sont très allégoriques. Il y a plein de symboles partout. En général, Chardin préfère montrer des brioches et des pots de confiture qui ne veulent rien dire que sinon l'existence du temps. Alors que là, il y a un map monde, il y a des symboles, il y a des plans d'architecture, il y a les arts qui sont réunis, sans doute là pour le dessin, l'architecture et la sculpture.
Et là, juste en dessous, il y a un petit Canaletto là, qui nous montre Venise.
Oui.
Canaletto, c'était un peintre qui réussissait à vendre des toiles dans toute l'Europe à l'époque.
C'est incroyable. Hein.
Comme des cartes postales.
On peut le dire. Là, il y a un plafond, je ne sais pas de qui il est. Je crois que ça s'appelle la salle de concert ici. Et là, il y a en deuxième rang. Qu'est-ce que ça veut dire, le deuxième rang ? Le deuxième rang, c'est quand les tableaux ne sont pas au premier étage, si j'ose dire, de la cimaise, c'est-à-dire du mur sur lequel ils sont accrochés, mais au deuxième. En général, au deuxième
rang. Ils sont plus hauts, vous voulez dire ?
Ils sont plus hauts, voilà. Et là, il y a un tiepolo. En général, au deuxième rang, quand vous êtes dans n'importe quel musée, de n'importe quelle ville d'Europe, c'est que le tableau, si jamais c'est un grand nom, c'est un Rembrandt, c'est un Velázquez, c'est qu'on n'est pas sûr. S'ils le mettent en premier rang, c'est qu'on est sûr. Là, c'est un Fragonard dont on est absolument sûr, qu'on peut assez mal voir, sauf si je vous le filme, parce que, quoi qu'il arrive, vous voyez, ça c'est le défaut de la réalité, c'est qu'il n'y a pas moyen de voir ce vieillard de Tiepolo. Il est de Fragonard. Parce que Fragonard, c'est un peu l'équivalent de Tiepolo en Italie. Et il n'y a pas moyen, regardez, il y a des reflets partout, partout, partout. Et vraiment, il faut un escabeau pour le voir de près.
Alors, nous avons glissé un pied dans l'exposition Hammershøi, le maître de la peinture danoise qui se tient au musée Jacques Marandré, un peintre que vous ne connaissiez pas ou
peu,
pratiquement pas.
Peu, j'avais vu 2-3 chefs-d'œuvre quand j'étais passé à Copenhague. C'est vraiment, comment est-ce qu'on peut juger un artiste ? On peut juger un écrivain avec un roman, on ne peut pas juger un peintre avec un tableau. Il faut au moins une dizaine de tableaux pour essayer de comprendre ce que son univers signifie. Et comment est-ce que les détails s'interchangent et comment est-ce que les tableaux forment un groupe et forment un tout. Alors là, oui, je vous dis les choses vraiment parce que je les ai senties comme ça. Je suis un peu déçu par l'artiste. On ne sait jamais si c'est parce que l'exposition n'est pas assez bonne ou c'est l'artiste qui n'est pas assez bon. Ce que je vois, c'est que c'est les deux dernières salles qui sont les meilleures et que le reste est un peu trop confiné dans un style granuleux qui est extrêmement répétitif. Et puis là où devient bon, voire très bon, c'est quand il nourrit ses murs blancs, ses murs vides avec des trucs de lumière. Exactement, il y a vraiment un côté Hopper qui serait un Hopper de bon goût.
Edouard Hopper.
Edouard Hopper de bon goût, c'est-à-dire dans des gris et dans les lumières qui frappent des carreaux de fenêtres sur des murs vides où les personnages, comme vous le faisiez remarquer très justement, sont de dos. Il y a un côté Vuillard, mais c'est un Vuillard du Nord. Les Vuillards, les murs ne seraient pas blancs. Ils auraient plein de tissu partout. Là, c'est le contraire. C'est la fin. C'est vraiment la fin de sa vie. Il doit mourir en 1916. Donc, entre les années 1905 et 1916, que je trouve qu'il est le meilleur. Et surtout, qu'il a quelque chose de photographique, non pas dans la manière de peindre, mais dans la composition qui doit avoir eu un succès énorme dans les années 60.
Et comment trouvez-vous ces nuques ? Moi, j'aime beaucoup les nuques d'Hammershøi, comme il invente le portrait de dos, souvent des femmes seules, qui ont tendance à augmenter d'ailleurs notre propre solitude. Quand on les regarde de dos des appartements dépouillés, on se sent très très seul soi-même, même s'il y a beaucoup de monde actuellement dans l'exposition.
Vous avez raison, c'est un peu la preuve qu'il ne sait pas bien les faire de face.
Ah, vous pensez que c'est ça ?
Oui.
Moi, je pense que c'est parce qu'il aime peindre les nuques.
Mais tout à fait, il y a un charme particulier à ça. Il y a quand même avant lui Ingres qui fait la baigneuse Valpinson, où c'est une femme qui est vue de dos, dont on ne voit que la nuque. Et il y a un charme de la nuque qui est évident. Mais il est évident aussi qu'il a un rapport, comme tous ces protestants, avec l'être humain et le compagnon en général.
C'est vous, pour commencer les comparaisons. Vous avez fait des comparaisons, je me souviens, entre les protestants et les juifs. Si vous aimez bien les comparaisons entre les religions.
Entre les hommes et les femmes, entre les... Quoi d'autre encore j'ai dû faire ? entre la gauche et la droite. Et ça, c'est mes thèmes favoris. Enfin, mon favori de chez favoris, c'est les séfarades et les protestants, qui sont quand même deux mondes opposés. Et là-dessus, vous avez les japonais, qui sont des hyper-protestants. Enfin, je ne vous dévoile pas tous les sketchs de mon spectacle du théâtre
oui,
de l'atelier.
Ça veut dire qu'il y a beaucoup de sketchs dans vos spectacles.
Mais j'essaye de mélanger, si vous voulez, sensualité et humour, en passant par des petits raisonnements sur la peinture. On se dit, ah là là, j'ai appris quelque chose en sortant de la soirée.
En tout cas, moi, je continue de penser qu'à Marcheuil, c'est le grand peintre de la solitude.
C'est vrai.
Et pour lui rendre hommage, bah, écoutons « La solitude, ça n'existe pas » par Gilbert Bécaud.
Très juste.
La solitude, ça n'existe pas. 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 Chez moi, il n'y a plus que moi. Et pourtant, ça ne me fait pas peur. La radio, la télé sont là pour me donner le temps et l'heure. J'ai ma chaise au café du Nord. J'ai mes compagnons de flipper. Et quand il fait trop froid dehors, je vais chez les petites sœurs des cœurs. La solitude, ben ça n'existe pas. La solitude, ça n'existe pas. Peut-être encore pour quelques loups, quelques malheureux sangliers, quelques paladins, quelques fous, quelques poètes démodés. Y'a toujours quelqu'un pour quelqu'un. Y'a toujours une société. Non, ce n'est pas fait pour les chiens de club Méditerranée, hein. La solitude, ça n'existe pas. La solitude, ça n'existe pas. Tu te trompes, petite fille, si tu me crois désespérée. La nature a horreur du vide et l'univers t'a remplacé. Si je veux, je peux m'en aller à White, à Woodstock ou ailleurs, et y retrouver des milliers qui chantent pour avoir moins peur. La solitude, ben ça n'existe pas. La solitude, ça n'existe pas. La solitude, ça n'existe pas. La solitude, ça n'existe pas.
C'était La solitude, ça n'existe pas, chanté par Gilbert Bécaud. Il ne le sait pas, mais il les a chantés devant les tableaux d'Hammersheuil, actuellement exposés au musée Jacques Marandré. On se retrouve dans un instant, toujours au musée Jacques Marandré, mais plus dans l'exposition Hammersheuil. On va aller vers l'escalier d'honneur.
C'est dans le 8e arrondissement que la balade de Frédéric Taddeï et Hector Holbalk touche à sa fin. Ils viennent d'ailleurs d'être rejoints par un proche du critique d'art.
Toujours au musée Jacques Marandré avec Hector Holbalk, et vous avez donné rendez-vous à David Castello-Lopez devant l'escalier d'honneur.
Que je connais depuis qu'il est né.
Oui, à peu près, ouais, c'est ça. Hein.
Il fut mon fan, c'est maintenant moi le fan. Alors, je ne sais pas si vous avez vu ce qu'il faisait sur Canal+ et Facebook, ou je ne sais quoi, là, qui s'appelait Depuis quand. C'est hilarant, c'est très intelligent, c'est très drôle.
Des petits films de 2 minutes. Hein, qui...
C'est ça, ouais, entre 2 et 4 minutes, sur les origines des choses de la vie quotidienne.
Et ça s'intitule Depuis quand. Et c'est vrai que c'est un très gros succès. Depuis quand le café gourmand, par exemple, ou depuis quand le K-Way ?
Exactement, les seins en silicone, l'autotune, les gens qui disent bonjour au lieu de dire bonjour. Voilà, c'est...
Et est-ce que vous avez fait les gens qui disent bonjour à tous ? Quand vous écoutez la radio, maintenant, tout le monde dit bonjour à tous.
Bonjour à tous, oui. Mais ça, c'est une façon, en fait, parce que bonjour, ça ne veut plus dire grand-chose parce que tout le monde le dit. Donc, il faut se démarquer, dire que nous, on veut vraiment dire bonjour. Et c'est comme belle journée, en fait. C'est bonne journée, et c'est calcifié. On ne peut plus dire bonne journée. Ça ne fait plus vraiment bonne journée quand on dit bonne journée à quelqu'un. Donc, on dit belle journée et bonjour à tous, je pense que c'est le même principe.
Mais ce qui est super dans son truc, c'est qu'il y a une petite enquête journalistique qui est un prétexte, et là-dessus, il y a une fantaisie incroyable, dès qu'il s'agit, seulement en 1 minute 30, hein, ça va 10 fois plus vite de ce que je fais, dès qu'il s'agit d'aller voir tel spécialiste, ou d'un coup, on sait des trucs sur la jeunesse de spécialiste, on prend l'avion, il y a un gag sur la ville dans laquelle on est, enfin, il arrive à tenir son sujet et à totalement le faire disparaître.
Et alors, je vais vous poser une petite colle, parce que dans cette pièce donc, où se trouve l'escalier d'honneur, il y a une magnifique fresque de Tiepolo,
oui,
peinte sur un mur. Alors, depuis quand est-ce que cette fresque est sur ce mur, sachant que Tiepolo est mort à peu près 100 ans avant qu'on érige cet hôtel particulier, que cette fresque a été peinte en 1745, alors que l'hôtel particulier dans lequel nous sommes, la résidence des, oui, des Jacques Marandré, date de la fin du 19e. Alors, mystère, depuis quand ?
Mais grand mystère, j'aurais dû réviser. Là, c'est un petit peu difficile. Donc, j'imagine que si la fresque, elle précède le bâtiment, c'est donc qu'elle a bien dû être transportée de quelque part. Elle était où avant ?
Alors, elle était dans une villa vénitienne. C'est, ouais, là où l'ont découvert les Jacques Marandré, qui était, ouais, un très grand collectionneur, qui était passionné par la peinture italienne.
Oui.
Et il la voit dans une villa vénitienne. Elle date de 1745. Elle est magnifique. Elle représente Henri III. Et alors, comment ont-ils fait ?
Est-ce qu'on a cassé les bords et on a décollé ? Mais ça paraît difficile pour une fresque.
C'est quoi la réponse ?
Un système génial. Ben, simplement, vous enduisez de colle une toile qui fait la même taille que la fresque. Vous la posez sur la fresque. La peinture se retrouve collée
marouflé,
à la toile.
On dit
voilà, marouflée. À l'envers,
oui,
et ensuite vous roulez la toile, vous la ramenez ici, et vous dépliez la toile, vous enduisez le mur de colle, vous collez la toile, vous retirez délicatement la toile, et au miracle, la fresque est reproduite sur le mur.
Ça, c'est quand même le comble du chic d'arriver à déplacer des choses indéplaçables pour
illustrer. J'ai un tout petit doute sur le fait qu'on l'enroule. Je crois que vous avez raison, Frédéric, oui, mais qu'on n'enroule pas parce que c'est trop dangereux.
Ah, peut-être bien, vous avez raison, sans doute. Oui. Oui, parce que ça fait quand même 7 mètres sur 4 à peu près, hein, de large. Ouais. Il a bien fallu quand même à un moment la plier.
Oui.
Enfin voilà.
Oui.
Voilà. Mais j'aime beaucoup cette fresque.
C'est super.
Et j'aime beaucoup cette histoire. Et vous êtes connu comment ?
J'étais fan de son père.
Oui.
Qui était Gérard Castelo López et qui était un producteur-distributeur de cinéma au Portugal, qui était un très grand nom au Portugal, qui parlait plein de langues, qui était extrêmement brillant dès qu'il ouvrait la bouche. Tout le monde l'écoutait assis par terre. Il ressemblait à José Luis des quoi ?
De la Villa Longa.
Exactement,
exactement,
de Villa Longa. Et je l'ai imité en tout, plus ou moins de façon ridicule, jusqu'à ce que je pense que finalement... j'avais fait mieux que lui, et à ce moment-là est venu son fils, et c'est lui qui m'a battu. Pas de couture.
Oui, moi je me souviens d'Hector quand j'étais tout petit, un personnage qui arrivait à la maison comme ça, un peu difficilement classable, et puis après je l'ai connu, on est devenu amis beaucoup plus tard, donc quand j'avais, oui.
Le temps de grandir.
Quoi. Le temps de grandir, exactement. La première fois qu'on s'est parlé, je ne sais pas si tu te souviens, c'est quand tu as critiqué un truc que je faisais.
Ça t'a pas plu.
Et ça m'a plu. J'ai été extrêmement vexé. Et c'était mon premier contact avec l'obalkisme, disons, qui est une sorte de.
Ça va pas là.
Oui.
Ça, c'est une facilité.
C'est une amitié sans concession qui est faite d'honnêteté totale. Et donc, au premier abord, quand on est habitué aux choses dites, disons, de façon
urbaine,
et ben, ça peut secouer. Mais finalement, je pense que c'est des secousses très bénéfiques.
Et comment vous trouvez son show ? Parce qu'allez-y, rendez-lui l'appareil. Vous l'avez vu ?
Ben, je pense au son show qu'en fait, ben, c'est le, en fait, quand on peut ne rien connaître à Caravage et on connaîtra, je dirais pas tout à la fin, mais on connaîtra Caravage parce qu'on le connaîtra beaucoup mieux que si on avait vu une exposition tout seul. C'est de la même façon qu'on, comme, je sais pas comment dire, parce qu'il va dire, on peut dire, on aime bien un passage d'un roman, de tel ou tel roman. Là, on va aller voir les tableaux et on va voir chaque petit détail. Regardez ce sous-tableau dans le sous-tableau et ce sous-tableau dans le sous-tableau du sous-tableau. Et à la fin, vraiment, c'est l'impression que j'ai moi quand je sors des shows d'Hector, c'est de connaître profondément, et bien plus que si on m'avait raconté l'histoire de Caravage ou si j'avais lu un petit livre qui me raconte des faits historiques ou rigolos sur Caravage.
Oui, ce que je lui ai reproché un peu gentiment, lui disant, après tout, on sort de là et on ne sait rien sur Caravage, lui-même, l'homme.
Oui.
Mais c'est vrai que ça ne l'intéresse pas tellement. Ce qui l'intéresse, c'est de nous emmener dans ses tableaux, au fond.
Ben, en fait, ce qui a quand même de génial chez Hector et de très, 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 très rare, c'est qu'il est extrêmement sensible à l'art. Il a un sens incroyable de la formule poétique. Et tout ça, c'est chapeauté par une pensée qui est d'une rigueur et d'une précision qui est assez rare, je pense, chez les gens qui ont à la fois cette grande sensibilité.
Et en plus, quoi. Il est assez rigolo sur ça.
Et voilà, il fait des blagues.
C'est très gentil. Moi, j'ai été repoussé par la philosophie quand j'avais 20 ans, et j'en ai fait à 30 ans. Parce que quand j'ai vu des gens qui faisaient la philosophie esthétique, je voyais qu'ils avaient une idée tellement floue de ce que c'est que l'esthétique, qu'ils prenaient ce flou-là pour de l'esthétique. C'est-à-dire qu'ils disaient, en gros, des formules poétiques et creuses. Et j'étais déçu par ça. C'est pour ça que j'ai fait des études de logique et de philosophie de la logique. Non pas pour faire le fanfaron en étant logicien, mais juste en ayant une rigueur de pensée qui permet de parler de ces choses plus difficiles, plus délicates, qui sont subjectives et qui sont le sentiment esthétique.
Et vous avez remarqué d'ailleurs, quand vous lisez des critiques d'art, en fait, vous pourriez changer le nom de l'artiste. Souvent, ça fonctionnerait quand même.
Oui, c'est vrai.
C'est la preuve du mauvais critique d'art, ça. C'est exactement ça. C'est terrible d'ailleurs, ça. J'ai pensé, c'est vrai que c'est une vocation dans ma vie. Vous savez, la plupart des critiques d'art, c'est des artistes ratés, soyons honnêtes. Moi, j'ai jamais essayé d'être artiste. Ma main, pourtant j'ai peint quand j'avais 14 ou 15 ans, mais mes yeux ou mon œil allaient plus vite que la main. Quand je me suis intéressé à l'art, je me suis dit, mais c'est dingue, j'ai l'impression de savoir pourquoi c'est beau. C'est un petit peu exagéré de dire ça, mais en gros, c'était ça. Je savais, en gros, comme si on était diplomate. Vous voyez, le diplomate, c'est celui qui parle au lieu de faire la guerre. Il évite la guerre grâce à la parole. Et moi, je pensais naïvement, et je le pense encore, hein, provoquer l'amour rien qu'avec la parole. C'est-à-dire que vous avez dit les trois mots qu'il faut pour que cette chose qui était désagréable à votre œil chez Cézanne, le caractère rêche, par exemple, devienne finalement le canon même de sa beauté et fait qu'on finit par convaincre les gens. On ne les convainc pas de façon démonstrative, on les convainc en les prenant par la main et finalement, on les amène dans votre propre chemin. C'est ça l'aventure du critique d'art et c'est là où il est récompensé.
Eh bien, je vous remercie, Hector Balk, de nous avoir emmenés en balade avec vous aujourd'hui. Merci, David Castello-Lopez. Rendez-vous dans Depuis quand. On va remercier le musée Jacques Marandré de nous avoir accueillis. Le musée Jacques Marandré où se tient l'exposition Hammershøi, le maître de la peinture danoise, et où se tenait juste avant l'exposition Caravage à Rome, amis et ennemis, à présent terminée. Je remercie également votre mère, Henriette Walter, de nous avoir accueillis chez elle et le Théâtre de l'Atelier où vous ferez votre prochain show.
15 avril.
Le 15 avril, le lundi 15 avril.
Tous les lundis, le milieu de chaque mois.
Ce sera les chefs-d'œuvre de Caravage, hein, ce numéro-là. Je remercie Marc Lesage, son nouveau directeur, de nous avoir reçus. Merci de nous avoir écoutés jusque-là et rendez-vous dimanche prochain à 11h. Bon dimanche, bonne journée.
Bon dimanche à vous Frédéric, à la semaine prochaine et pour patienter en attendant vous pouvez réécouter cette émission sur europe1.fr. Dans un instant vous retrouvez Fabienne Lemoyle avec le journal de la mi-journée et puis à 15h vous avez rendez-vous avec Isabelle Morizet pour Il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle qui reçoit aujourd'hui le ténor franco-italien Roberto Alagna. Alors passez une belle journée avec Europe 1, il est midi 29.